Eh bien, mes amis, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir ensemble autour du Seigneur pour écouter une fois de plus les enseignements de sa parole sur ce sujet qui a été placé sur nos cœurs et que nous intitulons selon Job 12, verset 7, « Interroge les bêtes et elles t'instruiront ». Dès ce soir, nous allons considérer quelques animaux qui ont à nous enseigner particulièrement la sagesse. Mais avant toute chose, nous voulons invoquer le nom du Seigneur. Ô Dieu, ce soir, en ta présence, nous venons te demander que tu nous donnes de parler comme un oracle de Dieu et de te servir par la force que toi tu fournis. Tu nous connais les uns et les autres, tu sais tout de nos besoins, de nos espérances, de nos déceptions, et nous voulons te demander que ce soir, ta parole trouve le chemin de nos cœurs, que nous soyons touchés par elle et que tu nous offres une occasion salutaire de méditer intérieurement et d'être ainsi, par l'action de ton esprit, transformé à l'image et à la ressemblance de Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, ce soir, c'est dans le livre des Proverbes que j'aimerais vous conduire pour recevoir quelques instructions des bêtes de la terre. Vous savez que la tradition attribue à Salomon ce remarquable ouvrage que tous, nous devrions connaître par cœur dès notre enfance. Quand j'étais encore très jeune et que je dirigeais l'école du dimanche de notre communauté en Suisse, j'avais très à cœur d'enseigner ce livre des Proverbes aux enfants et de leur faire apprendre par cœur plusieurs de ces textes, car je suis convaincu que si nous avions en mémoire les paroles que nous trouvons dans le livre des Proverbes, toute notre jeunesse en serait influencée et nous éviterions bien des expériences malheureuses. C'est pourquoi je vous invite à lire, à méditer ce livre des Proverbes, à repasser ces paroles dans vos cœurs jusqu'à ce que vous en soyez imprégnés. Alors, comme nous vous le disions l'autre soir, le Saint-Esprit, qui devient notre mémoire, nous rappelle au moment opportun une de ces paroles, alors que nous sommes en pleine activité, mais que nous devons prendre une décision, et tout à coup, un texte, peut-être des proverbes qui est tout à fait pratique, devient lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Et nous sentons intérieurement la conviction que nous devons agir de cette manière. C'est donc à Salomon qu'on attribue ce livre des Proverbes. Et je vous lirai tout d'abord dans le livre des Rois, premier livre des Rois, ce qui est dit au sujet de Salomon et de sa sagesse au chapitre 4 du premier livre des Rois, au verset 29e. Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et un cœur large comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse de l'Égypte. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étang, l'Évrakite, et qu'Aimant, et Calcol, et Darda, les fils de Makol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations alentour. Et il proféra 3000 proverbes, et ses cantiques furent au nombre de 1005. Et il parla sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Et il parla sur les bêtes, et sur les oiseaux, et sur les reptiles, et sur les poissons. Vous voyez comme nous retrouvons ces différentes classes d'animaux. Et de tous les peuples, on venait pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et vous connaissez peut-être le nom d'une reine qui vint d'Éthiopie pour écouter la sagesse de Salomon. Lisons encore quelques versets au chapitre 10 du premier livre des rois. La reine de Sheba entendit parler de la renommée de Salomon en relation avec le nom de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle vint à Jérusalem avec un fort grand train, avec des chameaux qui portaient des aromates, et de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses. Elle vint vers Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur son cœur. Et Salomon lui expliqua toutes les choses dont elle parlait, et il n'eut pas une chose cachée pour le roi, pas une chose qu'il ne lui expliqua. Et la reine de Sheba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la tenue de ses serviteurs, et l'ordre de service de ses officiers, et leurs vêtements, et ses échansons, et la rampe par laquelle ils montaient dans la maison de l'Éternel. Il n'y eut plus d'esprit en elle, et elle dit au roi, ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur tout ton état et sur ta sagesse était la vérité. Mais je n'ai pas cru ces choses jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Et voici, on ne m'avait pas rapporté la moitié. Tu surpasses en sagesse et en prospérité la rumeur que j'ai entendue. Heureux tes gens, heureux ceux-ci, tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a pris plaisir en toi pour te placer sur le trône d'Israël, parce que l'Éternel aimait Israël à toujours. Il t'a établi roi pour faire droit et justice. Et si la reine de Sheba a pu rendre un tel témoignage, j'ai de la peine à comprendre qu'aujourd'hui on néglige tant ces enseignements du livre des Proverbes qui sont à notre portée et qui peuvent nous rendre sages à salut, nous donner justement ce qu'il dit au début de son livre, ce dont les jeunes gens et les jeunes filles ont tellement besoin, et non seulement les jeunes gens et les jeunes filles, mais les hommes et les femmes d'âge mûr, et non seulement eux, mais aussi les vieillards. Salomon nous dit que ces proverbes, il les a écrits pour faire connaître la sagesse et l'instruction, pour discerner les paroles d'intelligence pour recevoir instruction dans la sagesse, dans la justice, dans le juste jugement, dans la droiture, pour donner aux gens simples de la prudence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, réfléchir avant d'agir. Le sage écoutera et croîtra en science, et l'intelligent acquérera du sens pour comprendre un proverbe, une allégorie, les paroles des sages et leurs énigmes. Et il ajoute, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Eh bien, nous ne voulons pas rester dans cette catégorie de fous et nous allons nous mettre un peu à l'école de Salomon, ce jeune roi qui, ayant eu un songe où l'Éternel lui apparaît en lui disant « Que veux-tu que je te donne ?» bien Salomon, dans sa prière, lui dit « Tout ce que je demande, c'est de la sagesse. » Et Dieu lui répond « Parce que tu n'as pas demandé la richesse, parce que tu n'as pas demandé longueur de jour, eh bien, je vais te donner cette sagesse, mais non seulement cette sagesse, mais tout ce que tu ne m'as pas demandé. » C'est ça qui est merveilleux. Si vous recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, si vous demandez l'essentiel, tout vous sera donné par surcroît. Mais la plupart du temps, on ne demande pas au Seigneur l'essentiel. Nous demandons une foule de petites choses. Alors que si nous savions demander ce qui nous est réellement nécessaire, nous verrions que tout nous est donné par-dessus. Et bien que nous soyons de ceux qui ont une prière intelligente, une prière qui n'a pas besoin de s'allonger à l'infini, mais qui est précise. Je demande une chose, Seigneur, c'est de te voir, toi. Et si nous le contemplons bien, notre face, comme nous l'avons vu, sera rayonnante de joie et nous aurons toujours la louange sur nos lèvres. Parmi les animaux qui sont cités en exemple dans le livre des Proverbes, je n'en citerai que quatre que nous trouvons au chapitre 30 et qui ont des leçons à nous donner. Comme Job le disait, interroge les bêtes et elles t'instruiront. Eh bien, dans le livre des Proverbes au chapitre 30e, au verset 24e, il est dit ceci, il y a quatre choses petites sur la terre qui sont sages entre les sages. Premièrement, les fourmis. C'est impressionnant. Allez voir la fourmilière là, ou la termitière. Et vous pourrez observer un petit peu le travail de ces êtres. Les fourmis peuplent sans force et qui préparent en été leurs vivres. Deuxièmement, les damans, c'est une sorte de blaireau, peuplent sans puissance et qui ont placé leur maison dans le rocher. Les sauterelles qui n'ont point de roi, mais qui sortent toutes par bandes. Puis enfin, il est dit, tu saisis le lézard, voilà le quatrième animal, avec les mains, et il est pourtant dans les palais des rois. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces quelques exemples. Au milieu du chaos moral dont le monde nous offre le spectacle Trouverons-nous ici-bas la sagesse dont nous avons besoin? Voyez-vous, ce matin, quand nous lisions le chapitre 1er des Romains, j'étais vraiment écrasé. Je me disais, mais est-ce possible que ces choses existent dans ce monde? Et c'était pourtant la réalité. Quand on considère ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, on est impressionné par le réalisme de ce chapitre 1er de l'Épître aux Romains, écrit il y a bientôt 2000 ans, et qui nous décrit l'état moral dans lequel ce monde se trouve. Et nous sommes dans ce monde, et nous risquons d'être influencés par ce monde complètement dévoyé, qui a changé la vérité de Dieu en mensonge. Oui, se disant sages, ils sont devenus fous. Alors, qui va nous enseigner? Où regarder? Quand je regarde ce qui se passe dans nos villes, dans nos villages, et dans certaines de nos maisons, nous sommes effrayés. Et quand on se dit que Dieu ne voit pas seulement ce qui se passe dans nos villes, dans nos villages, dans nos maisons, mais ce qu'il voit dans nos cœurs et les pensées que nous pouvons avoir, eh bien nous comprenons que Dieu doit avoir une patience infinie pour nous laisser subsister. Et je comprends bien cette exclamation de Job, s'il ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit et son souffle, toute chair expirait ensemble. Je ne serai pas épargné. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit, son souffle, toute chair expirait ensemble, et ce serait le grand silence dans ce monde. Eh bien, apprenons à rentrer en nous-mêmes et à nous dire, mais qu'est-ce que je peux encore regarder pour apprendre un peu la sagesse dans ce monde? Si je ne puis plus regarder aux hommes, peut-être que les créatures que l'on dit inférieures, les animaux, auront des leçons à m'apprendre. Car voyez-vous, la sagesse dont nous avons besoin, elle ne se fait connaître que dans les petites choses de la terre. Et voyez comme tout se lit dans l'Écriture sainte. Vous vous souvenez d'une lecture que nous avons faite un certain matin ici, dans l'Épître aux Corinthiens, et qui pouvait peut-être nous caractériser, nous concerner, nous tous qui sommes ici. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Considérez un peu parmi vous et regardez, quelle était votre vocation, frère? Il n'y a pas beaucoup de sages parmi vous, selon la chair. Il n'y a pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont pas pour annuler celles qui sont, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est donc dans la petitesse que nous pouvons trouver la vraie sagesse. Alors, dans notre texte des Proverbes, nous trouvons donc des bêtes très petites, et c'est pourquoi j'ai voulu commencer par des petites bibites, comme vous dites ici au Canada. D'abord, il est question des fourmis, et qui font des provisions pour les mauvais jours. Les fourmis, dans les Proverbes, sont citées deux fois. Dans ce chapitre 30, elles nous sont données comme un exemple de sagesse, C'est un peuple donc sans force. Mais étant sans force, elles ont malgré tout cette intelligence que le Créateur leur a donnée de préparer en été leur vivre. Pendant que la saison est favorable, elles préparent avec une très grande activité les vivres pour l'hiver. Et dans le chapitre 6, le travail des fourmis est cité en exemple à qui ? Aux paresseux. Chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseuse. Regarde ses voies et sois sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur. C'est fantastique si vous vous arrêtez à tout cela et que vous voulez méditer. Elle prépare en été son pain et amasse pendant la moisson sa nourriture. Voilà ce que c'est une petite fourmi. Et alors, il y a l'application là, mais jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Puis le paresseux lui dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Ça, c'est la réflexion du paresseux. Ah oui, et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ton dénuement comme un homme armé. Voyez-le. Voilà ce qui arrive aux paresseux. Que Dieu nous donne de ne pas être paresseux et de recevoir la leçon des fourmis. Mais qu'est-ce que nous recevons comme leçon quand nous observons les fourmis ? Car c'est quelque chose de merveilleux. Grâce à l'observation des naturalistes, je pense à Fabre spécialement, et qui a écrit des livres remarquables là-dessus, eh bien, grâce à l'observation de ces naturalistes, on connaît la merveilleuse construction souterraine et l'admirable organisation sociale des fourmilières. Ces colonies comprennent, vous le savez certainement, trois sortes d'individus. Il y a les mâles et les femelles, seuls pourvus d'ailes à l'état parfait et uniquement consacrés à la reproduction. Et puis, il y a les fourmis ouvrières, qu'on appelle quelquefois les fourmis neutres ou les soldats, qui dirigent la communauté et exécutent les travaux. Elles ouvrent ou ferment l'entrée des galeries, elles les protègent de la pluie ou des ennemis, elles font aussi les charrois et elles s'emparent des œufs à peine éclos et les entourent de soins constants. Je me suis arrêté quelquefois devant ces fourmilières et on pourrait y passer des heures et vous pouvez prendre un calepin et noter vos observations. Et même quand, méchant comme je le suis, j'arrive à en tuer une, j'ai été bouleversé d'assister à l'enterrement qu'elles ont fait. Elles ne l'ont pas conduite à un salon funéraire, enfin j'en sais rien, j'ai pas été dedans. Hein. Mais en tout cas, elles se sont mises à ramasser leur sœur morte et elles l'ont emporté le cadavre, assassin que je suis. Vous vous rendez compte ? Mais observez, oui. Ça vaut peut-être la peine de faire un crime pour voir ce qui se passe. Les fourmis prennent soin de leur mort. Et alors, il n'y a pas de révolte. Il y a les fourmis mariées, donc. Il y a les célibataires. Elles travaillent, elles ne se dessèchent pas, les célibataires. Alors mes sœurs, mes frères, célibataires, ne vous desséchez pas. Souvenez-vous des fourmis, vous pouvez avoir une grande activité. c'est très beau. Mais les fourmis vous enseignent. Elles ne sont pas préoccupées de tant de choses. Elles ont un but, elles ont une activité, une action. Et pour être conduites ainsi, elles n'ont pas besoin d'un syndicat. Regardez, il dit, elles n'ont ni chef, ni surveillant. Comment se dit-il, formal? Mais il n'y en a pas. C'est grâce à Silvio. Ni gouverneur. Puis elle prépare en été son pain et la masse pendant la saison, sa nourriture. Et vous pouvez continuer de méditer sur ce que peut vous enseigner les fourmis. Peuple sans fin. Nous sommes souvent des peuples, un peuple sans force. Nous n'avons pas de force. Regardez pourtant, les fourmis ne s'excusent pas de ne rien faire. Mais sans force, de rien faire. C'est justement dans ce peu de force qu'elles accomplissent une tâche qui est mise devant nos yeux pour nous exhorter. À agir avec le peu de force que nous avons. C'est biblique, ça. Va avec la force que tu as, Juge 6, verset 14. Va avec cette force que tu as, c'est ce que l'Éternel dit à Gédéon. Je me souviens très bien de ce verset, j'avais 14 ans, quand une dame anglaise me l'a donné. Va avec cette force que tu as. C'est tellement beau. Avançons. Ils marchent de force en force, où leur force se renouvelle pendant la marche. Psaume 84. Maintenant, passons au daman, le deuxième petit animal. C'est donc un genre de blaireau, ça a la grosseur d'un lapin, et on le trouve au Liban, surtout, et dans le nord de la Galilée. Et ce petit animal vit dans les trous des rochers. Il ne vit pas un terrier comme le lapin. Non, mais il va faire sa demeure dans les infractuosités des rochers. Et c'est là qu'il établit sa demeure pour ses petits. Et on a observé que les damans sortaient deux fois par jour pour prendre leur nourriture, pour amener leur nourriture. Le matin et le soir. Et c'est alors qu'on peut les observer. Et pendant leur repas, en groupe, peu nombreux, il y en a toujours un qui se tient comme une sentinelle et qui alerte toute la petite communauté au moindre danger. Et alors tout disparaît. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà ce que nous pouvons apprendre des damans qui eux aussi savent qu'ils n'ont pas de force pour lutter contre les ennemis. Alors, ils ont eu cette sagesse de faire leur demeure où? Dans les rochers, où on ne peut guère les atteindre et où ils peuvent toujours se réfugier en cas de danger. Est-ce que vous comprenez maintenant la leçon que ces animaux ont à nous donner? Si vous vous croyez fort, eh bien, vous ferez votre maison sur le sable. Oh, ça risque rien. Nous sommes assez forts. Nous sommes assez prévoyants. Sur quelle base devons-nous construire notre vie? Le roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Et nous pouvons toujours nous réfugier en lui. Et nous voudrions aussi que, comme on observe les damans, on puisse nous observer le matin et le soir. Comment sortons-nous le matin? Quel est notre visage au matin? N'y a-t-il chose qui puisse nous donner un visage rayonnant? C'est d'avoir vu le visage du Christ. De l'avoir contemplé avant de contempler nos frères. Alors, comme Jacob rencontrant Ésaïe, nous pourrons dire à ceux que nous rencontrons, tu sais, quand je te regarde, c'est comme si je voyais le visage de Dieu. Tout ce qui est fantastique. Jacob, qui avait peur de son frère Ésaïe, Ésaïe qui voulait le tuer, eh bien Jacob, une fois qu'il a vu le visage du Seigneur dans sa lutte avec l'ange, il peut dire, j'ai vu Dieu à sa face, et mon âme a été délivrée. Et il n'a plus peur d'Ésaïe. Et quand il tombe dans les bras l'un de l'autre, et qu'ils s'embrassent, les paroles de Jacob sont si merveilleuses. Je regarde ton visage comme je regarde le visage de Dieu. Ça change complètement notre impression et notre expression. Et puis le soir, à la fin d'une journée, quel visage avons-nous? Visage anxieux au début d'une journée, comment est-ce que les choses vont-elles se passer? Est-ce que nous aurons les moyens suffisants pour être nourris? Les diamants vont chercher leur nourriture et n'ont pas de soucis. Comme l'a écrit Kierkegaard, les oiseaux n'ont pas de soucis. Ils ont confiance dans leur Père Céleste qui les nourrit. Et nous, nous sommes soucieux dès le matin. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas confiance. Les animaux s'attendent à Dieu pour recevoir leur nourriture. Quelle leçon! Et le soir, quel est notre visage après les fatigues du jour? Oh, nous sommes crevés. Ça ne devrait pas être le cas. Si nous restons dans la dépendance du Seigneur, il peut nous renouveler, cœur en œuvre, et nous donner aussi des soirées selon son cœur. Et une autre chose que nous enseigne les amants, c'est qu'il ne faut pas seulement construire notre maison sur l'Europe, mais il faut encore veiller. Veiller. Vous êtes au Seigneur, vous êtes croyant, mais ça ne suffit pas. Il faut veiller. Veiller pour prier. Et savoir vous réfugier à la moindre alerte dans le côté parfait de notre Seigneur. Et savoir aussi nous investir les uns les autres. Des dangers que nous voyons et qui peuvent menacer nos frères. Je suis souvent si triste de penser que nous intervenons à l'égard de nos frères seulement quand ils sont tombés. Alors là, on vient pour les juger, pour les condamner. Mais on avait vu qu'ils étaient en train de glisser. On avait vu qu'ils couraient un danger. On ne leur a jamais dit. Nous n'avons pas parlé. Nous ne les avons pas avertis. Eh bien, pourquoi ne veillerions-nous pas avec amour les uns sur les autres? Nous sommes membres du corps de Christ, et nous allons le voir tout à l'heure. Et notre force, justement, elle se trouve dans cette communion que nous avons les uns avec les autres. Il est bon, il est agréable que les frères habitent nous ensemble et que nous fassions veiller avec un intérêt d'amour les uns sur les autres. Alors nous arrivons maintenant aux sauterelles. Et vous avez remarqué que jusqu'à présent, nous nous sommes occupés d'animaux classés comme impurs. C'est pourquoi il me semblait nécessaire que nous ayons hier la réunion au sujet des animaux purs et des animaux impurs. Ces deux premières catégories, donc les fourmis et les damans, sont parmi les animaux impurs. Mais pourtant, maintenant, ils nous sont cités, ces animaux, comme exemple de sagesse. C'est bien pour cela que nous soulignons hier qu'ils étaient impurs seulement pour la question de l'alimentation et également pour des raisons d'hygiène, mais que ça n'enlevait pas leur valeur et que dans l'écriture, bien des animaux impurs étaient cités pour nous enseigner des valeurs morales et spirituelles. Maintenant, alors, les sauterelles, on a vu hier qu'elles étaient parmi les animaux purs. Hein. Alors, les sauterelles, qu'est-ce que nous apprenons d'elles ici? Il est dit que les sauterelles n'ont pas de roi. Elles sont aussi faibles. Hein. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par bandes. Ne pas avoir de roi signifie que, en quelque sorte, l'autorité visible manque. Mais la force des sauterelles se trouve dans quoi? Dans leur rassemblement. C'est ça qui est extraordinaire. Elles n'ont pas de force. Elles n'ont pas d'autorité sur elles, visible. Mais ce qui fait leur force, c'est qu'elles sortent toutes par bandes. Elles sont ensemble. Et alors, on peut les voir, quelle une armée extraordinairement forte. Il y a des descriptions que vous pourrez lire vous-même, parce que je ne vais pas allonger, dans le livre de Joël, où vous pouvez y croire réellement que ces sauterelles sont une véritable armée de soldats. Une invasion de sauterelles, c'est comme une armée de soldats qui sont très disciplinés et qui restent ensemble, qui se soutiennent les uns les autres. Ce qui frappe quand on voit une attaque de sauterelles, c'est toujours leur marche imperturbable. On les dirait commandés par un fait qui est invisible. Joël 2, vous pouvez lire ce chapitre. Alors, qu'est-ce que cela nous montre à nous? L'Église n'est pas que par le rassemblement de ses fidèles, mais en elle-même dans ce monde. L'Église n'a pas de puissance. L'Église, contrairement à ce qu'on a cru autrefois, n'est pas une puissance temporelle. Sa puissance, elle ne la détient que de qui? De son fait invisible. Mais l'Église n'a pas, malgré tout ce qu'on peut penser, de chef vraiment visible. Le seul chef de toute l'Église universelle du Christ, c'est Jésus. La tête glorieuse qui est dans le ciel. Bien sûr que l'Église romaine dit avoir un chef, le pape à Rome, et presque toutes les autres églises ont leur petit pape. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que Rome qui aurait un pape. Même les églises évangéliques ont des petits papes, des sous-papes en tête et latérale. Mais ça c'est pas mal de bruit. Et rien ne peut être fait sans leur autorisation. Alors moi, je préfère encore qu'il y en ait un à Rome, que dans toutes nos petites communautés, tous ces petits papes, qui croient aussi, bien souvent, infaillibles hein, dans leur jugement. Et c'est ça qui est terrible. Alors, cessons de juger les autres qui prétendent avoir un chef visible et demandons au Seigneur d'être vraiment comme les sauterelles qui n'ont pas de chef visible, mais qui se groupent, qui se tiennent ensemble. C'est pas un homme qui les tient. Qui est-ce qui doit nous tenir ensemble? Jésus. Les hommes nous divisent. Les hommes s'opposent aux hommes, tandis que Jésus nous rassemble. Voilà ce que vous pouvez trouver dans ces sauterelles, dont la force se trouve dans leur rassemblement. Et si réellement nous pouvions réaliser cela dans ces journées, que ensemble, le Saint-Esprit opérant au milieu de nous et employant tous les dons qu'il y a dans cette assemblée, eh bien, il peut y avoir un vrai réveil dans nos cœurs, réveil qui se propagera ailleurs, dans nos communautés, dans nos villes, dans nos villages, où nous retournerons si nous laissons le Seigneur agir et si nous reçoit...